Hervé Villard, du lierre dans les arbres aux éditions Fayard. Alors je trouve que c'est un très beau titre, parce que le lierre, c'est magnifique, mais effectivement, le lierre tue l'arbre à la fin, parce que c'est lui qui a le dessus. Mais vous, vous avez...
Mais le lierre ne tue pas les arbres, le lierre étouffe les arbres. Donc ça revient au même, quoi. Je veux dire, non, c'est la symbolique du showbiz. C'est-à-dire que si vous êtes entouré de gens qui vous flattent et que vous passez votre vie avec, et qui vous racontent que des mensonges, et que vous flattant tout le temps en disant que vous êtes parfait, que vous êtes très bien, vous êtes un artiste, vous finissez par ne croire que ce qu'on vous dit et vous étouffez. Et vous n'avez plus de sève. Donc si vous n'avez plus de sève, vous n'avez plus de sang. Si vous n'avez plus de sang, vous n'êtes plus un artiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la symbolique du livre, naturellement. Mais c'était l'histoire j'ai écrit une trilogie, j'ai écrit d'abord L'âme seule, j'ai écrit ensuite Le bal des papillons, et nous avons terminé par Le lierre dans les arbres. Voilà.
Alors cette trilogie justement qui raconte votre histoire,
oui.
Pourquoi avoir fait une trilogie souvent parce que c'est l'envie de l'écriture, c'est d'abord d'être écrivain?
Non, moi je ne suis pas un écrivain, je suis un garçon qui écrit. C'est pas exactement la même chose. j'aime tellement la littérature que j'ai voulu les faire moi-même d'abord. Et puis, secondo, c'est l'amour de la littérature. J'ai surtout beaucoup lu. Je veux dire, j'avais presque envie de vous dire, tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin, tout le monde n'a pas eu la chance de retrouver sa mère à 20 ans, tout le monde n'a pas eu la chance d'être sauvé par le grand résistant qui était Daniel Cordier. Enfin, vous voyez, c'est une histoire assez longue et assez belle, et tout le monde n'a pas eu la chance d'aller faire le tour du monde, de chanter pendant des années autour du monde, pendant des années. Je veux dire, tout ça, c'est relaté, bien sûr. Parfois, il y a un peu de romanesque, un peu de romance dans tout cela, parce qu'il faut joindre les mots, il faut qu'ils s'assemblent, il faut aussi que les mots se ressemblent. C'est très difficile à assembler tout ça. Mais moi, j'ai pas écrit dans la souffrance, ni pour me exorciser, vous voyez, je veux dire. Moi, j'ai écrit parce que je pense que c'était une belle histoire et qu'elle méritait d'être relatée, d'être écrite. Vous savez, ça va être édité en chinois et en anglais cette semaine. Alors, je suis ravi.
Absolument. Et pas au Brésil?
Au Brésil.
En Amérique du Sud?
Non, en espagnol, pour l'instant, non.
Parce que je pense que vous avez quelques souvenirs. Un jour, vous m'aviez raconté une tournée en Amérique du Sud, aux côtés de Dolly Parton.
Oui, ça, c'est pas en Amérique du Sud, c'est en Amérique du Nord.
En Amérique du Nord? Ah, je croyais que c'était en Amérique du Sud.
Non, c'est dans le Texas. Je parle de ça il y a 30 ans. Elle montait sur scène, elle changeait de perruque, elle sortait de sa voiture, elle changeait de perruque et elle montait sur scène. Et moi, j'ai fait ça, j'ai fait une tournée en première partie d'elle sur 10 villes d'Amérique du Texas pour connaître le fond de l'Amérique. Je n'étais pas du tout connu en Amérique. D'ailleurs, on me prenait pour un Mexicain là-bas. Je le sais faire parce que ce qui était intéressant pour moi, c'est ce que j'ai voulu aussi relater dans mes livres, c'est que c'était intéressant de voir le monde et de pouvoir entrer quelque part. Donc, comme je n'étais pas un chanteur un peu connu du côté de Miami, tout ça, parce qu'il y avait beaucoup de Sud-Américains, mais le reste, il fallait connaître l'Amérique profonde. Qu'est-ce qui était mieux d'accepter une tournée avec Dolly Parton que pour connaître l'Amérique profonde? C'est comme si vous faisiez une tournée aujourd'hui avec Michel Thor, vous voyez, c'était en France.
Pour revenir à ce livre, donc vous avez terminé cette trilogie.
Je relate des expériences et des quelque chose. C'est-à-dire que quand je parle de Madame Lumina Cherina, qui n'est plus de ce monde, mais qui est une immense danseuse, je relate les dîners de Lumina où elle dit pourquoi ne ferions pas une soirée bolchevique caviar, vous voyez, c'était bon. Et puis, je relate aussi mes tournées à Palavas-les-Flots, où ça sent la frite, où les ballons s'envolent, où on entend les fêtes foraines, c'est-à-dire qu'on n'écoute même pas ce que vous chantez. Je suis un privilégié de la vie, c'est une chance pour moi d'avoir fait ce métier. Mais ce métier m'a aidé à voir le monde, à connaître le monde. Moi, ce métier, je n'en tire que ça. Ça n'est pas la gloire. Je dis par contre qu'elle n'existe pas, ça c'est sûr. La gloire, je pense qu'elle est pour celui qui vous regarde, c'est-à-dire celui qui a besoin d'aller voir des artistes. C'est pour ça que moi j'ai été le petit, donc le petit chanteur bien habillé, bien frais auprès des mamans. Donc je m'appliquais pour ces gens, pour le public. Vous voyez, j'allais pas à l'envers de ça. Et je lui en suis très reconnaissant. J'ai eu quelques petits ennemis comme ça, mais entre guillemets, mais pas beaucoup. Et puis, mais j'ai encore de grands amis dans ce métier.
Je parlais des flatteurs.
Les flatteurs, c'est pas la même chose. Les flatteurs, ce sont les gens qui vous entourent et qui vous racontent que vous êtes toujours le plus fort et le plus beau.
Et comme disait La Fontaine, et qui vivent aux dépens de celui qui l'écoute.
Voilà, c'est-à-dire, c'est le corbeau et le renard. C'est-à-dire, vous pouvez laisser tomber le fromage, c'est sûr. Si vous y croyez à ça, il ne faut pas croire à ces mensonges. C'est ça que je veux dire. C'est un métier de menteur d'être chanté, hein. C'est un métier de faiseur. Nous sommes dans l'utopie, dans la poudre aux yeux, n'est-ce pas ? Quel que ce soit, même si la musique est très très bonne, il y a un moment où il faut laisser un peu de poudre aux yeux.
Mais le rêve que les artistes donnent, ça n'a pas de prix.
Le rêve ne se vend pas. Ça n'a pas de prix, comme vous dites. Non, non. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il suffit simplement d'être conscient. Que des gens se lèvent le matin et ne pensent pas à vous en se levant le matin, forcément, parce qu'ils ont autre chose à faire et à travailler. Or, vous avez certains artistes, mais pas forcément des chanteurs, des gens qui pensent qu'ils ont tellement d'ego sur eux-mêmes, qu'ils sont persuadés que le public ne pense qu'à eux et ne vit que pour eux. Ça n'est bon, il y a le public, et il faut se méfier des artistes qui vous disent « mon public », parce que je pense qu'il y a le public en général, et le public il est comme nous tous, il est parfois infidèle, comme les femmes et les hommes, il s'en va, il va voir ailleurs, il y a des jours où il vous trompe et puis il va pas pouvoir en aller voir quelqu'un, c'est ça aussi le lierre dans les arbres, c'est-à-dire qu'il est, je parle de moi bien sûr à la troisième personne, parce que ce personnage ne m'appartient plus, il est dans le livre, il est conscient de tout ça, parce qu'il n'a pas les moyens d'être quelqu'un d'autre. Moi, je suis un garçon sans famille qui l'est resté. Pourquoi ? Parce que j'ai essayé d'en fonder une, ça n'a pas marché. Bon, ben voilà, c'est chacun son destin, mais c'est pas une question pour s'apitoyer, quoi. Il n'y a pas de raison. C'est ce que je vous disais. Donc, il faut être conscient, quand on fait ce métier, que nous ne sommes pas des gens éternels et nous ne sommes pas des surhommes. Nous sommes des gens simplement. Moi, j'ai un grand souvenir de mon parrain de métier qui était Maurice Chevalier, Dalida étant ma marraine. Quel échec de finir sa vie comme Dalida, n'est-ce pas ? C'est dommage, vous voyez, mais on peut le respecter, on peut respecter son geste. Mais je me souviens, pour vous parler de Maurice Chevalier, je le voyais à Rio, il devait avoir 80 ans, je devais en avoir 20. Et j'allais le chercher comme ça, on me disait, Hervé, il faut... Allez recevoir le grand Maurice Chevalier, ça va vous faire de la publicité, et on a besoin pour remplir le théâtre. Donc vous voyez, donc j'y allais naturellement, et je voyais cet homme débarquer de l'avion, naturellement impeccable, et il allait à l'hôtel, il prenait une douche, il venait de Paris, hein, donc Paris-Rio c'était à l'époque 25 heures d'avion, et il prenait une douche, il faisait sa conférence de presse, et ensuite il allait dormir, et le soir il faisait 2 heures de spectacle. Je lui dis, mais comment vous faites Maurice, il me dit, voyez, jeune homme, voyez le costume de tweed que je porte. C'est magnifique. Et bien moi, je chante pour ceux qui m'admirent, parce qu'ils admirent aussi mon costume, parce qu'eux n'ont pas les moyens de se l'offrir. Donc je le porte pour eux, mais je le porte fièrement. Et donc il y a un côté comme ça aussi, où il faut être très conscient de cela, n'est-ce pas ? Nous faisons un très très beau métier, mais aussi un métier excessivement dangereux, où il y a beaucoup de tentations, la perversion, la picole, enfin, et on peut en passer d'autres. Voyez. Donc il faut essayer de ne pas plonger dans tout ça. C'est pas simple.
Merci Hervé Villard.
Je vous en prie.